Je vous remercie de m'avoir invité. La journée a été longue et j'avais une idée peut-être d'alléger en quelque sorte la présentation et de passer surtout par ces images. J'avais laissé mon PowerPoint chez moi puisque c'est une longue histoire, mais surtout c'est parce que j'ai un vieux système de PowerPoint. Donc je commence avec tout simplement la page 41. Mon livre est sorti il y a un mois, donc il est assez frais pour que je le présente, je pense, dans son argumentaire global. Ce que j'avais pensé, c'est de relever les moments où je parle directement du chantier à partir de 1789. Ce que j'étais intéressé de vous montrer, d'abord l'illustration d'architecture de l'encyclopédie bien connue, et le contraste, c'est dans la série F30 des Archives nationales, la statistique, une petite image de ce qui c'était le monde du bâtiment à partir de 1790-1791. Donc je vais jouer entre la statistique et les images, si vous voulez, de ce qui c'était le bâtiment à cette époque et qu'est-ce qui exactement a changé au moment de l'éclatement de la Révolution française. Je pense que ce que ces archives, d'abord, ces archives s'agissent de basculement en assignat. La loi révolutionnaire insistait que les maîtres viennent avec les déclarations des rôles de compagnons et pour montrer combien de compagnons, combien d'apprentis, combien d'employés, bref, on avait. Et on voit dans cette petite photo de la statistique que on voit une simplification d'abord de ce qui c'était le chantier révolutionnaire, c'est-à-dire que les maçons englobent les tailleurs de pierre, les maçons englobent les limousins, les maçons englobent d'autres petits métiers du bâtiment. On veut tout mettre dans cette catégorie maçon qui représente à cette époque donc 67% des ouvriers de bâtiment. On voit aussi la proportion aux ouvriers à chaque aux employeurs. On voit un maître par 25,6 maçons et on voit les charpentiers juste derrière un maître pour 19. Pour relativiser un petit peu, c'est un monde grâce à Michael Sonnenscher, Stephen Kaplan et d'autres qu'on connaît, est largement dominé par les maîtres avec un ou deux compagnons, typiquement dans d'autres industries, dans d'autres secteurs de l'économie parisienne. On a un maître pour un ou deux ouvriers. Donc, ce qui est intéressant dans ces chiffres, si on recoupe les déclarations pour les assignats révolutionnaires, l'argent révolutionnaire, donc, avec d'autres séries, d'autres archives, par exemple, les déclarations pour les cartes de sûreté en 1793, on voit quand même une coïncidence assez intéressante. On voit les chiffres qui sont largement constants hein, en 1791, 1793 aussi. Donc, la première chose à insister, il y avait une sélection un peu étrange pour simplifier ce qui c'était le bâtiment dans les yeux des autorités municipaux parisien pendant la Révolution française. Voilà d'autres façons de voir la même chose. Combien d'ouvriers déclarés par profession, ouvriers largement ça, qui englobe les artisans qui ne sont pas maîtres. Dans la plupart des statistiques qu'on peut comparer vis-à-vis la population de Paris, on estime que les ouvriers de bâtiment étaient parmi le plus grand secteur du monde du travail parisien. On estime à peu près entre 6 et 7% du monde du travail à Paris. Voilà donc une image de ce qui c'était le bâtiment. Et voilà un autre. On reconnaît peut-être la construction de l'hôtel de Salm en détail, qui est au musée Carnavalet. Et on reconnaît l'école Hubert Robert, mais effectivement, ce tableau est complètement c'est anonyme. On connaît pas le peintre. Voilà donc l'image du chantier. On voit une certaine continuité avec les images de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à partir de 1753. Les artisans sont très très propres, très, si j'ose dire, bourgeois. Ils sont très gentils, ils sont loin d'être la classe dangereuse de notre siècle. Et on voit donc ici comment le chantier est perçu avec, bien sûr, ce qui est pareil, l'architecte et le propriétaire de lieu. C'est une image un peu connue chez les Américains. Je me permets juste de faire cette digression, puisque Thomas Jefferson a modelé l'hôtel de Salm, a utilisé l'hôtel de Salm pour faire le Monticello, sa maison en Virginie. Et donc on voit ici le chantier autour de l'hôtel de Salm. Et Jefferson lui-même, ministre plénipotentiaire à Paris, raconte comment il est resté médusé pendant des heures dans le jardin des Tuileries, juste en face de la Seine, en regardant les travaux. Et il admirait autant l'architecture de ce bâtiment que l'organisation du travail. Ici, bien sûr, on voit le chantier dans les trois sens que Robert Carvey nous a donné, hein, le sens de l'atelier, le sens de lieu, le sens aussi de rapports sociaux entre les ouvriers différents, entre les tailleurs de pierre. Donc, on voit à partir de là une image du bâtiment qui est assez différent, je pense, le secteur de bâtiment, assez différent de ce qu'on nous attend après la Révolution française. Effectivement, le bâtiment, comme on connaît très bien les plaintes de Mercier à propos de l'embourgeoisement des experts, des maîtres maçons, on peut constater que le bâtiment était en quelque sorte victime de sa réussite. Je donne un contraste d'image. C'est très injuste de montrer la rue Volta avec cet immeuble qui est en train d'effondrer. Parce que dans l'imaginaire de beaucoup de commentaires critiques du XVIIIe siècle, Marc-Antoine Laugier, le philosophe économiste Turgot, aussi bien que Louis-Sébastien Mercier, le bâtiment ressemblait plutôt ça que l'hôtel de Salm. Il y avait un boom après à partir de 1763, comme Michel Gallet le montre, comme Mercier souligne aussi où, où Paris a vu une construction énorme, vu les maisons qui se construisent dans une proportion énorme. On estime 20 000 maisons, peut-être, lors de cette époque, 1763-1815. Et avec cette vitesse, avec cette vitalité, il y avait bien sûr quelques changements de loi. À partir de 1766, c'était beaucoup plus facile pour les spéculateurs à saisir une propriété où les entrepreneurs ou les fournisseurs ont fait faillite, par exemple. C'était très intéressant d'investir, bref, dans les terres. Et à cause de cette libéralisation, le discours, ce qu'on peut appeler dans une façon simpliste, le discours critique à propos du monde des bâtiments, surtout qui ciblait la Chambre des bâtiments chère à Robert Carvey, estimait qu'effectivement le tort, c'était que dans le monde des bâtiments, les maîtres étaient juges de eux-mêmes, de soi-même. C'est-à-dire, le problème, c'est que on ne voyait pas vraiment la distinction entre experts entrepreneurs, experts bourgeois, tel qu'on connaît, existait, entre ceux qui pouvaient engager dans le business et ceux qui étaient interdits d'investir. Et donc, on pensait que le monde du bâtiment était profondément corrompu par ce genre d'image. Alors, avec la Révolution, Hubert Robert, aussi bien que d'autres, ont une tendance, c'est à partir de 1788, pont au change, effectivement, ont tendance de montrer pas la construction à Paris, mais la déconstruction de Paris, ce qui est assez étrange. C'est juste avant la Révolution française, bien sûr, on voit une multitude de ce genre d'images. Je me permets de montrer simplement le page de mon livre, qui est aussi le pont au change, Hubert Robert, et qui est en train, où les maisons sont en train d'être détruites. Voilà, donc il y a ce changement, si je peux dire comme ça, d'image, à partir de, avant la Révolution, pas de la construction de Paris, mais on m'a demandé pourquoi choisir le titre de la construction, Constructing Paris in the Age of Revolution, c'est parce que on peut construire et déconstruire, mais on ne peut pas bâtir et débâtir. Donc j'ai joué un peu avec cette image d'un Paris victime d'un vandalisme pré- et post-révolutionnaire qui était cher à Hubert Robert. Voilà, aussi tard qu'en 1813, avec l'église de Feuillon, le même sens, les bâtisseurs de Paris étaient en train de casser Paris, en quelque sorte. Hubert Robert n'avait pas un propos pro-anti-révolutionnaire, bien sûr, mais c'est ce qui était l'image propagée dans l'imaginaire. Alors, le centre de mon livre et le centre du bâtiment à Paris, bien sûr, c'est la place des Grèves, on le sait très, très bien. Et c'est donc le centre géographique de mon livre aussi. La carte Jaillot montre très bien le rapport entre la rue de la Mortellerie, le centre où se trouve bien sûr la communauté des maîtres maçons, aussi bien que la maison de beaucoup de maîtres maçons et des entrepreneurs maçons. Et on voit comment le lieu de travail, ou le lieu où on cherchait le travail, la place des Grèves, et le lieu où on habitait était très proche, était très intégré à cette époque. Alors, je suis un petit peu le développement de l'idée de la grève, de faire grève. On voit apparaître à partir de 1785 l'idée dans les rapports de police, une dénonciation de ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent faire grève. Et on voit un développement assez étrange. Faire grève voulait dire avant 85, donc j'ai vu dans les rapports de police, simplement attendre le travail sur la place de grève. Mais effectivement, à partir de 85, ça devient un mot pour faire grève, un strike en anglais, comme aujourd'hui. Et la fréquence de ce mot se développe dans les années révolutionnaires. Je me suis trompé un peu là. C'est une image de la Bastille en souvenir, propagée par Palois, excusez-moi. Oui, à propos de la place de grève, donc, on a cette image assez connue des maçons qui attendaient au 19e siècle pour le travail, avec les costumes connus des maçons de la Creuse, surtout. Si, Robert, tu te rappelles qui était le graveur, puisque ça m'a glissé de la tête, excusez-moi. En tout cas, voilà, début 19e, et plutôt milieu 19e, et on voit donc comment les ouvriers sont aperçus. Ils sont étrangers dans le sens du 18e, début 19e, c'est-à-dire étrangers de Paris. Ce qui était le cas avec un bon nombre, trois quarts des maçons, aussi bien au 18e qu'au 19e. Il y a une sorte de mythe sur les maçons de la Creuse qu'ils ont commencé la migration au 19e siècle. Effectivement, comme Annie Moulin avait trouvé bien avant moi, trois quarts des maçons parisiens étaient originaires de la Creuse. Et aussi des tailleurs de pierre étaient de la Normandie. Alors, Nicolas de Lamassin, entre 1640 et 1725, a fait ce genre de caricature des maçons, où il montre que c'était un homme un peu un touche-à-tout, Mr. Fix-It en anglais, qui était prêt à tout faire. On voit un genre dandy déjà avec ses chaussures, et on voit cette image du monde de bâtiment aussi développée sous Napoléon. Ici, un graveur de 1802, Berquin, c'est l'artiste. Ils abrègent et se facilitent leurs travaux par les secours mutuels qu'ils se donnent. Et voilà, on voit un milieu de bâtiments qui s'entraident avec un secours mutuel. On est encore loin du compte du bâtiment de la classe dangereuse, qui est déjà très controversé. Avec cette image, donc, finalement, au 19e siècle, une petite caricature anonyme aussi dans les archives de Canavalet à propos du chantier. On voit les maçons qui ne sont pas toujours très travailleurs. Donc, je présente un petit peu quelques argumentaires. J'arrête peut-être là pour le moment. J'avais d'autres images pour montrer le bâtiment, la construction de la Révolution française. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est ce qui se passe exactement avec la suppression d'abord des corporations des arts et métiers, avec la loi Dallard d'abord, et ensuite la loi Le Chapalier en 1791, et ensuite l'Académie d'architecture en 1792, et la Chambre des bâtiments en 1793. J'ai suis un petit peu gêné par le manque de lumière, si ça ne t'ennuie pas. Pardon. Merci. Donc, du point de vue de la perspective des chantiers parisiens, la période de la Révolution se révèle un temps, au début, un temps de perte d'emploi et d'opportunités dans le bâtiment, bien sûr. On suspend le travail aux barrières célèbres de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux. On ferme l'église de la Madeleine, on ferme Sainte-Geneviève, on ferme le palais de justice. Il y a un moment de crise de 1788-89. Donc le bâtiment frappe la population de la capitale de plein fouet. On estime que le chômage était très très fort à cette époque, au début de la Révolution. En même temps, ce qui commence à être construit, c'est la création de nouveaux types d'espaces publics, qui relèvent plutôt de recyclage, la transformation, par exemple, d'anciennes structures religieuses en assemblées. Il y a un essor de la construction de théâtres aussi. La construction révolutionnaire allait s'investir dans des projets pragmatiques et limités, surtout les transformations d'édifices anciens, hôpitaux, en école ou en prison. Quelques entrepreneurs qui avaient remporté les rares commandes publiques de la décennie furent surtout chargés de bâtir de l'architecture éphémère. C'est là où je voulais montrer Palois, qui était connu pour avoir fait la mise en scène des fédérés, et de fait la fédération surtout. Aussi, il y avait quelques commandes pour achever les infrastructures, telles que le pont de la Concorde, qui était achevé en 1791. Alors, je saute un petit peu. Le vrai problème de la Révolution au début, donc, était l'effondrement de l'économie corporatiste avant la suppression des corporations, bien sûr. Il y avait la disparition des réseaux de crédit, surtout. Les communautés des arts et métiers et le système de crédit étaient intimement liés. Et le désarroi dans le monde des guildes provoque alors des crises entre les créanciers et les débiteurs. Donc le tissu complexe des dettes actives et passives assumées par les artisans pendant le XVIIIe siècle a impliqué que les rapports entre les maîtres maçons et les entrepreneurs de bâtiments se soient souvent fondés sur la confiance, fermement soutenu par le réseau corporatiste pour faire aboutir les projets de construction. Être membre juré d'une guilde donnait accès à un réseau d'associés qui pouvait être une source de prêts prolongés, de divers services et d'accès aux matières premières. Ainsi protégés des pressions économiques, les membres de guildes s'étaient laissés entraîner vers l'endettement envers les ouvriers, les propriétaires et les autres entrepreneurs. Donc on estime qu'il y avait une dette de 500 millions de livres tournois de la part des Parisiens entre 1770 et la Révolution française. On s'est permis de foncer en dette profondément juste avant la Révolution française. Ce qui arrive pendant la Révolution en crise, en décembre 1790, c'est la création en quelque sorte de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les lobbies des maîtres maçons, des architectes, qui rédigent les pétitions en faveur des arts et des professions de bâtiment. Il demande les travaux publics, il demande une façon de, il demande de l'embauche des artisans, ils utilisent un discours qui est nouveau à cette époque, où le chantier devient une sorte de modèle pour le tiers état. Un exemple d'un de ces pétitions qui était rédigé par Bernard Poirier, qui était l'ancien contrôleur des bâtiments de la ville de Paris. Je ne pense pas, Robert, il était dans la chambre des bâtiments, il était juste dans la municipalité. Bernard Poirier était un des rares architectes ayant une vision globale de l'urbanisme révolutionnaire, et il rédige une brochure dans laquelle il fait un argumentaire très très intéressant. Nous devons respirer une nouvelle vie dans ces métiers professionnels et mécaniques pour nous engager aux grandes entreprises publiques dont l'exécution exige la concurrence d'un grand nombre d'ouvriers de toutes sortes qui sont dirigés vers des considérations d'utilité générale. L'architecture est de tous les métiers celui qui a une influence la plus étendue dans les affaires d'un grand empire. Les artisans de toutes les classes sont appelés à concourir afin d'ériger des monuments publics. L'architecture est si parfaite dans cette influence et si puissante dans ses conséquences politiques qu'on devrait lui accorder la protection la plus complète. Voilà un discours d'un architecte que les chantiers possèdent les qualités suprêmes du tiers-État triomphant. Hein, par sa nature concurrentielle, mais coopérative du travail. Alors, on voit une sorte de mise en pratique de ce genre de discours, où le bâtiment est utilisé comme métaphore de la nation, et où on souligne l'utilité générale de l'architecture, surtout vis-à-vis des monuments publics. C'était effectivement dans l'année 1791 qui voit une conjoncture économique très favorable qui facilite la relance de la construction à Paris. C'est là où, bien sûr, l'ancienne Sainte-Geneviève est relancée en tant que panthéon national qui va absorber 500 ouvriers. Mais plus important encore serait la stabilisation des assignats par la vente des biens nationaux entre 1791 et 1792, qui va provoquer un véritable boom de la construction à Paris. On estime à 12% de la propriété parisienne qui sont vendues en tant que biens nationaux. Bien sûr, ce sont les terres et les biens immobiliers de la noblesse, des émigrés et de l'Église surtout. Alors, dans mon livre, je souligne que ce n'était pas par hasard que ce qui absorbait la plupart de ces investissements était dans la zone entre ce qui est maintenant le 2e, le 9e, le 10e et le 11e arrondissement, donc de la chaussée d'Antin, largement, vers la place de la République, la future place de la République. Chaque nouveau lotissement représente une opportunité pour élargir les quartiers de la périphérie de la capitale. On voit dans cette zone une conjoncture des intérêts intéressants. D'abord, c'est la rue des Colonnes, le projet le plus connu, le plus intéressant, le plus célébré de la Révolution, de la vente des biens nationaux aussi. C'était une rue qui est tronquée maintenant, à partir de 1830. Ça a été tronqué, ça a été amputé. Mais la rue des Colonnes se trouve juste à côté de la Bourse, et la rue Vivienne Et ce qu'on appelle la bourse maintenant était un centre financier très très intéressant qui avait vu beaucoup d'activités au moment de la vente de ces biens nationaux. On voit aussi plus au nord, vers Chaussée-d'Antin, l'influence des vignobles, effectivement, de Montmartre. Les vignerons de Montmartre avaient une certaine richesse. Et on voit dans Chaussée-d'Antin, à nord-est, le fait de ces investissements. Et on voit une architecture qu'on comprend maintenant et classique, ce qu'on appelle du style directoire. Tous ces projets ont été lancés à partir de 1792-93 pour être finis sous le directoire, normalement. Alors, la reprise de ces chantiers privés entraîna certes des chantiers publics, le palais de justice, le Louvre et le pont de Concorde offrirent des emplois supplémentaires. Je vais juste montrer ces images en tirant quelques grandes conclusions. À partir de ce moment-là, ce qu'on voit est une application d'une série de mesures qui organisent la construction à Paris autour des instances nationales pour remplacer ces coopérations qui sont supprimées, pour aussi bien que l'Académie d'architecture. À l'OTAN 1791, au sein de la Commission des travaux publics, les fonctionnaires de l'État centralisent les responsabilités de surveillance policière, administrative et architecturale. Une loi de 1791 crée l'Administration nationale des ponts et chaussées, qui relève du ministre de l'Intérieur. La construction à Paris est dessaisie, donc, de ses instances municipales et coopératives et devient un secteur national. Une nouvelle élite technologique est créée, entre guillemets créée, il y avait toujours cette élite des ingénieurs, bien sûr, mais on voit un acte politique en remplaçant le réseau des oligarchies du bâtiment de l'ancien régime par les nouveaux hommes, surtout ceux qui sont issus de l'école polytechnique fondée en 1794. Je suis toujours dans la Chaussée-d'Antin et on voit aussi en 1795 la création, la consolidation du Conseil des bâtiments publics, des bâtiments civils, pardon, qui réhabilite la plupart des architectes, aussi que les méthodes hiérarchiques, en quelque sorte, de l'ancien régime. Voilà. Donc, dans le cas de Paris, la faiblesse des organes municipaux, politiques, couplée à la demande généralisée d'une police nationale dans le secteur de bâtiment, a contraint l'État à détourner les forces de marché. Bien avant Haussmann, les politiques urbaines jacobines introduisent une rupture avec les échecs de la phase dite libérale du début de la Révolution. Les réformes de l'ère révolutionnaire sur les chantiers parisiens ont donc répondu pleinement à l'inquiétude aiguë ressentie par l'opinion publique et les autorités de l'État depuis la fin de l'ancien régime au sujet de la liberté d'entreprendre dans le bâtiment à Paris. Je finis juste avec les images de recyclage. Par exemple, si on voit la rue de Charonne, qui est cet immeuble qui appartenait à l'église, est devenu les ateliers de filature et dont le propriétaire était Richard Lenoir, bien sûr, qui a mis cette petite horreur juste en face, qui a quelque sorte gâché cet immeuble, cet ensemble. Voilà un autre bâtiment recyclé, l'abbaye de Saint-Antoine de Champs, qui devient l'hôpital Saint-Antoine. Liberté, égalité, fraternité. On voit la construction de l'Église, une construction ecclésiastique, pardon. Et voilà, donc je suis revenu à la rue des Colonnes, qui était connue pour être en quelque sorte le prédécesseur de la rue de Rivoli, lancée en 1802. Et mes propos sur l'histoire urbaine, c'est tant qu'on a vu ce recensement assez étrange des bâtiments à Paris, on voit une sorte d'intérêt d'imposer une sorte de hiérarchie simple, imposer une sorte de aussi architecture simple, accessible à tout le monde, où il n'y a pas beaucoup de ornementation. Voilà pour les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, et voilà pour la construction de ce qu'on peut appeler la construction révolutionnaire. Rue Mondard est un autre exemple, sans ornementation, très simple, relativement accessible à la bourgeoisie qui entrait le marché de l'immobilier par le biais des biens nationaux. Un Parisian home, bien sûr, une agence immobilière faite pour les Anglais et les Américains, j'ai remarqué. Donc, rue Mondard, qui se situe aussi au deuxième arrondissement, pas loin de la rue des Colonnes. Et voilà, la rue des Colonnes encore. Et je vous remercie. Je coupe court.